RMC, l'After Foot, Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? La Coupe du Monde des clubs sur RMC, sur DAZN. Vous le savez, comme chaque jour, focus sur l'un des 32 clubs en lice aujourd'hui. Club historique, Porto, messieurs, dames. Double vainqueur de la Ligue des Champions, mais qui galère ces dernières années. Seulement troisième de son championnat cette saison. Le club du président Villas-Boas n'a pas brillé non plus en Europe. Analyse de la saison, projection sur cette Coupe du Monde des clubs avec aujourd'hui notre spécialiste du foot portugais, notamment Nicolas Villas-Boas d'ailleurs.
Oui, tiens.
Salut Nico.
C'est que pour aujourd'hui, ça va?
Ouais. Aucun lien avec André?
Non, lui, il a deux ailes, moi j'en ai qu'un. C'est ce qui distingue les nobles de la populace comme moi.
Les nobles ont combien de ailes?
Ils en ont deux. Souvent, ils se différenciaient des, en mettant deux consoles.
Voilà. L'homme du peuple, Nicolas Villas. Voilà. Et Rémi Dumont avec un T. Oh, un seul T.
C'est ce qui différencie rien.
personne. Journaliste RMC Sport. Merci les gars d'être là. Troisième du championnat, je le disais, derrière Sporting et Benfica, comme la saison dernière. Éliminé en barrage de Ligue Europa par la Roma. Éliminé tôt des coupes nationales. Juste une super coupe du Portugal au palmarès en début de saison. Est-ce que on peut dire que la saison de Porto est une nouvelle saison cata?
Ouais, pas réussi. T'auras pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Elle avait bien débuté.
Au Portugal, faut être premier pour être directement qualifié.
Ouais.
Deuxième.
Ouais, non, mais déjà, faut être premier pour que ta saison ne soit pas foirée. Si tu t'appelles Porto, Benfica ou Porto. Ouais. Non, ou Sporting. Mais la Super Coupe, donc la saison, elle va avoir avec ça, avec Victor Bruno, qui était l'adjoint de Sergio Conceição, qui avait été nommé comme entraîneur principal, première expérience en tant qu'entraîneur principal. Déjà, ça avait été un psychodrame parce que Sergio s'était senti trahi par son adjoint, etc. Ça avait fait couler pas mal d'encre. Match de déglingué, faut une remontada, enfin bref, contre le Sporting, match de fou furieux. Et après, ça a commencé à devenir un peu tendu dans le vestiaire, etc. Et puis, Martin Anselmi, un entraîneur argentin, arrivé en cours de saison. Et là, tu termines troisième. Tu es quand même très, très loin du Sporting et du Benfica. La saison, elle a été dure quand même. Ouais. Elle a quand même été dure. Ouais.
Dure simplement, pas cata?
Bah si, moi je dirais cata, puisque justement c'est Porto, ils ont un standing, enfin au Portugal, comme tu disais, si tu termines pas premier c'est compliqué, mais là tu termines troisième, donc c'est encore plus compliqué, donc j'ai envie de dire que c'est cata.
Oui, l'ère Villas-Boas, on le disait, démarre quand même de manière très compliquée. L'ancien entraîneur de Marseille, bien sûr, qui a été élu président de Porto l'année dernière. Pourquoi c'est aussi compliqué son début d'ère? C'est lui qui fait plein d'erreurs, en fait?
Non, c'est qu'il hérite d'une situation qui est hyper compliquée. C'est-à-dire, lui, il arrive, le club, dans une situation économique qui est assez tendue, on va dire. Et puis, surtout, il passe quand même derrière quelqu'un qui s'appelle Pinto da Costa, qui était là depuis 81, qui est décédé, d'ailleurs, il y a pas très longtemps. Donc, il passe derrière l'une des personnalités les plus emblématiques du foot portugais et surtout au FC Porto. Alors après, on l'aime ou on l'aime pas, il y a des histoires judiciaires, etc. Mais ça a été quelqu'un vraiment de prononcé. C'est difficile de passer derrière lui, mais surtout lui, quand il arrive, il commande un audit des comptes du club et il se rend compte que les caisses sont... Non seulement elles sont vides, mais il y a des dettes à rembourser en plus. Ils avaient une menace de ne pas pouvoir être inscrits dans les compétitions européennes parce qu'ils devaient de l'argent à certains clubs, à certains agents, etc. Et lui doit composer avec ça. Donc en gros, c'est système D, c'est comment je fais pour attirer des bons joueurs gratos tant qu'à faire et vendre quand même des joueurs pour faire entrer de l'argent dans les caisses. Donc c'est
ce qui a été longtemps la philosophie de Porto et ce que longtemps Porto a réussi à faire quand même.
Ouais, et ce qui d'ailleurs je pense vont continuer à faire parce qu'ils ont quand même des joueurs qui sont pas mal valorisés. Mais non, c'est très compliqué. C'est pas lui. Alors moi, après on peut dire il a peut-être fait une erreur en mettant Victor Bruno comme entraîneur. Alors est-ce qu'il était prêt ou pas? Comment le vestiaire a vécu le fait que l'ancien adjoint devienne entraîneur principal, que l'ancien principal se sente trahi? Tout ça, je pense qu'on en reparlera et on fera le bilan plus tard. Mais
Et comment compter ça, où il n'était pas en fin de contrat, il pouvait renouveler en plus, non? C'est pour ça il y avait.
Alors en fait, Sergio avait dit, moi, parce que Pinto da Costa était candidat à sa propre succession, il a dit, il s'était manifesté comme un soutien de Pinto da Costa, il était là lors de ses meetings, parce que c'est vraiment les campagnes présidentielles, c'est des vraies campagnes présidentielles. Il était là présent lors de ses meetings, et à partir du moment où Villas-Boas a été élu, il gagne à 80% des voix, ce qui était complètement inattendu. Il était favori, mais aussi largement, on ne s'y attendait pas nécessairement. Et derrière, en gros, Villas-Boas a dit « Moi, je suis prêt à discuter avec Sergio. » Et Sergio, de lui-même, s'est retiré, il s'est effacé. Pep également, d'ailleurs, il a pris sa retraite suite à ça. Il avait lié son avenir aussi à Pinto da Costa. Et finalement, voilà. Donc, tout ça pour dire, c'est vraiment une page qui se tourne, en réalité, à Porto, là, depuis quelques semaines.
Et est-ce qu'il va mettre du temps à se tourner? Est-ce qu'il y a un plan à long terme, à moyen terme? Est-ce que vous diriez quand même que Porto, là, c'était l'an zéro, il a fallu remettre à plat, faire l'audit, etc. Et que pour les supporters de Porto, la saison qui arrive, forcément...
Je pense que ça va prendre du temps. Là, ils sont lancés dans un projet de nouvelle académie, nouveau centre de formation, qui d'ailleurs était un point de désaccord entre Pinto da Costa et la candidature de Villas-Boas. Ils n'étaient pas d'accord sur le lieu et l'endroit où le faire. Au final, Pinto da Costa, avant de perdre les élections, avait signé pour l'achat de terrain pour construire un centre de formation. Villas-Boas a réussi à trouver un accord pour récupérer l'oseille, en gros, et effacer ça, et le faire à un autre endroit qui était plus rentable pour Porto. Donc, lui, il veut miser sur la formation en se disant « on n'a plus d'oseille ». On ne peut plus recruter comme avant, il n'y a plus la TPO, on pouvait acheter des parties de joueurs et les revendre, etc. Il faut qu'on trouve un autre système. Et pour lui, le système, bah, c'est miser sur la formation. Et on va en reparler derrière, il y a des très bons jeunes joueurs à Porto aujourd'hui.
Martin Anselmi, arrivé en janvier, Nicole disait, est-ce que c'est l'homme de la situation? Rémi, tu as quelques stats sur l'entraîneur.
Ouais, 18 matchs avec Porto, 1,89 points par match. Après, il a été nommé en janvier, et vu la saison de Porto, c'est compliqué. Après, je regardais ce qui fait mal aussi cette saison, c'est qu'il n'y a aucune victoire contre Benfica et le Sporting. Il y a au mieux match nul, au pire défaite. Même pas en plus. Si, il y a match nul contre le Sporting à la 21e journée. Et puis je regardais en termes de classement, ça fait quand même depuis 2021-2022, cette saison-là, que Porto n'a pas gagné le championnat. Ça commence à faire long quand même.
Ouais, après c'est pareil. Anselmi, il débarque. Il était, alors pareil, ça a été un recrutement qui a été assez litigieux. Il était sous contrat avec un club au Mexique. Villas-Boas avec Zubizarreta, qui était déjà avec lui à Marseille à l'époque où lui il était entraîneur, qui en gros a cette espèce de rôle de DS également à Porto. Ils ont absolument vouloir faire venir ce jeune entraîneur argentin.
Voulu faire venir.
Mais je ne parle pas très bien, je me débrouille quand même.
Non, on va essayer de la faire en français.
On va la faire. Ils ont voulu le faire venir absolument et ils l'ont fait venir. Le club mexicain a porté une réclamation auprès de la FIFA. Enfin, tout ça a été un peu compliqué. Et lui, c'est pareil, il est tout jeune, il découvre aussi l'Europe.
Quel est le joueur de la saison de Porto, celui qui hype Rémi et Nico pour cette Coupe du Monde des clubs? Quelle ambition pour Porto? On continue le débat juste après. Ça. Porto, aujourd'hui, au programme, focus sur le club deux fois vainqueur de Ligue des Champions, mais qui galère ces dernières années. L'ambition sur la Coupe du Monde des clubs, dans quelques instants, on vous donnera le groupe, les adversaires de Porto. Mais d'abord, qui est, selon vous, Nico, Rémi, le joueur de cette saison? Rémi.
Eh ben, pour moi, c'est Rodrigo Moura, à ne pas confondre avec Francisco Moura, parce que quand je tape sur Internet, je me suis fait quelques blagues. Moura, c'est donc 18 ans, 1m68, surtout 11 buts en 4 passes D en 37 matchs cette saison, et surtout des buts de folie, quoi. C'est un dribbleur, il est provocateur dans le jeu. Enfin, c'est vraiment le joueur frisson, je trouve, de l'équipe. En plus, la pépite, il est hyper jeune. Il a été prolongé il y a pas longtemps. Il y a une clause maintenant qui a plus de 100 millions d'euros. Pour aller le chercher, sachant que je regardais sur Transfermarkt, il est évalué à 40 millions d'euros. Pour moi, c'est vraiment le joueur qui a donné un petit peu de positif cette saison.
À l'heure où on enregistre, il est toujours à Porto. Hein, c'est vrai que c'est le genre de joueur
qu'on
en parle beaucoup à Paris. Nico, en fait, tout le monde aurait voulu donner le même nom. T'en as choisi un autre, mais un mot sur Crack.
En tout cas, c'est la pépite. Ouais. D'ailleurs, à tel point qu'il n'y a même pas 18 piges, Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal, a déjà convoqué en A. Enfin, vraiment, c'est un... Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai des potes qui ont des potes à eux qui bossent dans l'académie du FC Porto.
Ah oui, le copain du copain.
Non, mais ça fait 5 ans que le mec me dit... Il y avait lui, le fils de Sergio Conceição, qui est prêté à la Juve en ce moment. Et il me disait, tu verras, crack, incroyable, etc.
Ah, ouais.
Et c'est un peu le même genre de joueur, en plus. Très petit gabarit. Ouais. Alors, Sergio Conceição, c'est un joueur... Francisco, c'est un joueur un peu plus vif, etc. On commence un peu à le connaître maintenant. Rodrigo Moura, c'est plus fin. Vraiment, il a, c'est un joueur à l'ancienne, mais de fou. Il est tout frêle. T'as limite.
Est-ce que justement, c'est pas ça qui risque de poser problème? Parce que c'est vrai que des joueurs d'1m68 tout frêles.
Moi, mon joueur préféré, il mesure 1m59, donc c'était Rui Barros.
Samaritano.
Non, mais il est pareil, formé au FC Porto. Mais c'est vraiment, il a ce côté.
C'est notre époque.
Mais t'as raison de le dire, c'est vraiment un joueur frisson. C'est vraiment, il a tout pour lui, ce gamin. Alors, à voir après, est-ce que physiquement, il faut pas qu'il s'étoffe un peu? Mais en tout cas, Villas-Boas, ça dit très clairement. Nous, il faut qu'on le garde, il faut qu'on capitalise sur le gamin. Il est encore jeune, il a 18 ans à peine. On veut continuer de profiter de lui et qu'il continue de profiter, de grandir avec le club, quoi.
Alors, est-ce que les copains, des copains, des voisins t'ont parlé de Samu?
Bien sûr. Alors, Samu qui est arrivé.
C'est ton joueur de la saison?
Bah, disons, pour moi,
après,
c'est...
Ricardo Moura.
Rodrigo
Moura.
Non, on va y arriver. Il est arrivé en cours de. Enfin, l'été dernier. International chez les jeunes de l'Espagne. Il était joueur qui appartenait à Grenade. Il avait été formé là-bas notamment aussi. Et c'est vrai qu'il a tout explosé. Et pareil, à tel point que Luis de la Fuente, le sélectionneur A de l'Espagne, l'a appelé en équipe A. Comme se dire, On dit souvent que l'Espagne n'a pas de vrai numéro 9. Lui, c'est au contraire de Mora. C'est un joueur hyper athlétique, très physique, etc. Mais Luis de la Fuente l'a appelé quand même. C'est-à-dire, il appelle un joueur du championnat portugais et c'est pas un mec qui, en plus, est dans un club qui survole. Il convoque un joueur qui est troisième du championnat portugais seulement. Et c'est vrai qu'il a quand même fait une saison qui est hyper intéressante, Samo. Aussi.
Alors, on parlait de Rodrigo Mora. C'est aussi c'est le joueur que tu as envie de voir sur cette Coupe du Monde de club, Nico,
ah ouais,
particulièrement.
Ouais, puis tu as envie de le voir face à une autre adversité aussi.
Ouais,
quoi.
Exactement. Tu as choisi quelqu'un d'autre, Rémi, un gardien de but.
Sur ouais, le Diogo Costa. Ouais. Le capitaine, le gardien qui est courtisé par Manchester City. Donc pareil, là, alors on se parle, je ne sais pas s'il jouera dans un groupe ou dans l'autre, hein, avec City ou Porto. Mais je trouve que voilà, c'est un gardien intéressant dans le sens où je me souviens qu'il y a 2-3 ans, notamment à l'époque du Lyon Porto en Europa League, il commençait à éclore et on parlait de lui en sélection. Bah, depuis, il a enchaîné les sélections puisqu'il en compte maintenant 34 avec le Portugal. C'est lui le gardien de la sélection. Et je me demande ce que ça va donner au niveau international plus avec la Coupe du Monde des clubs, parce que il va avoir face à lui d'autres types d'attaquants, hein, quand on voit le groupe de Porto. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et surtout si il n'est pas transféré d'ici là, comment il va gérer justement les rumeurs de transfert autour de lui.
Crac Diogo Costa, Nico.
Bah après, c'est aujourd'hui le gardien bof. Numéro 1 de la sélection. Non, il est pas bof, il a une grosse spécialité, il avait brillé notamment à l'Euro. C'est les pénaltys, les pénaltys, les tirs au but, etc. Lui, c'est sa spécialité. En revanche, sur tout ce qui est sortie aérienne, et là moi je me souviens aussi des phases finales avec le Portugal aussi, c'est un peu ce qu'on lui a reproché, il manque parfois d'autorité dans la surface. C'est pour ça, lui, ça fait un moment qu'il a annoncé et à United et à City. Moi je serais curieux de le voir dans un championnat plus athlétique encore.
Alors on le verra possiblement sur cette Coupe du Monde des clubs où Porto affrontera Palmeiras, l'Inter Miami et Al Ahly. Bon, là normalement ça sort, on disait, bon, cette fois
moi je trouve ça hyper
ouvert.
Moi Palmeiras, j'ai hâte de voir. En plus, un entraîneur Abel Ferreira, un entraîneur portugais qui connaît très bien cette équipe. Al Ahly, sous-estimez pas, c'est l'une des équipes les plus cotées en Afrique.
Un gros joueur là récemment.
Ouais. Et puis l'Inter Miami, après moi je sais pas trop les juger, les jauger non plus, mais moi je trouve que c'est un groupe hyper homogène, moi.
Et surtout, ce qui est terrible pour Porto, si ça passe ce groupe, ça s'arrête probablement en 8e. Ce que tu croises avec le groupe B, donc c'est PSG ou Atlético, si tu te qualifies en 8e de finale.
Hein, ça passe tranquille.
Ouais. Sûr, passe non, tranquille. Donc à la limite, 8e de finale, vu le tirage, ce sera une compétition correcte pour Porto, quoi.
Ouais
c'est tout.
Ou ouais. Une saison très, très compliquée s'il passe pas, le Porto jusqu'à la Ligue.
Vous connaissez pas celle-là.
Ah, j'ai entendu en régie. Oh.
c'est moi qui l'ai. C'est pas sorti tout seul. Merci les gars, Rémi Dumont, Nico Villas. Je vous rappelle que la Coupe du Monde des clubs, bien sûr, c'est à suivre sur RMC et sur DAZN.
RMC, l'after foot.